Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'ouvrir votre Bible à Exode 20, où se trouvent les 10 commandements, et de vous dire, je vais regarder un petit peu où j'en suis dans mon obéissance des 10 commandements. Alors vous prenez les 10 commandements, vous commencez avec le premier, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Bon là, pas de problème, j'ai pas d'autre Dieu, donc check. Le deuxième, tu ne te feras point d'image taillée et puis tu ne te prosterneras point devant elle. Oh ben ça non, j'ai pas de toutes ces choses dans ma maison, j'ai pas de Sainte Vierge, j'ai pas d'idole dans ma maison, pas de problème, check. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, le troisième. Ah non, ben bon, dans le passé, oui, bon, non, ben maintenant ça va, check. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Ah, pas de problème, moi j'observe le sabbat, même depuis le coucher du soleil, vendredi soir, il n'y a pas de problème avec ça. Check. Honore ton père et ta mère. Ah oui, il n'y a pas de problème, ils sont morts de toute façon. Check. Ensuite, il nous est dit, sixième commandement, tu ne tueras point. Ah non, moi j'ai tué personne. Check. Tu ne commettras pas d'adultère. Non, j'ai qu'une femme, ça me suffit largement. Check. Tu ne déroberas point. Non, je ne vole rien, je ne vole personne. Check. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Bon, c'est vrai, quand j'étais jeune, ouais, mais bon, maintenant, je n'ai pas l'habitude de dire des mensonges. Check. Et puis le dernier, tu ne convoiteras point. Check. Et attendez, tu ne convoiteras point. C'est le dernier des commandements, mais... C'est vrai, c'est un commandement sur lequel on ne porte pas beaucoup d'attention parce que on ne convoite pas, quoi, tout simplement. Ellen White, dans Patriarches et Prophètes, écrit ceci, dramatiquement juste. C'est un des péchés les plus communs de nos jours et dont on fait le moins de cas. D'autres fautes sont poursuivies et châtiées. Mais il est très rare que la violation du dixième commandement donne lieu, ne serait-ce qu'à une simple réprimande. Et c'est vrai. On considère que le dernier des commandements est un commandement que personne n'enfreint finalement. Tu ne convoiteras point et la liste des choses qui sont présentées là, non, moi je ne convoite pas. Mes réflexions faites, est-ce que je ne suis pas aussi coupable de ce péché-là de temps en temps ? Se pourrait-il que ce problème souligné par le dernier commandement soit un de mes premiers problèmes aujourd'hui? Alors j'aimerais ce matin revoir avec vous l'histoire de ce péché-là dans les Écritures, aux quelques points seulement. La première fois que ce péché a frappé, c'est dans le ciel. En fait, la convoitise, c'est le premier péché dans le ciel. Ouvrez vos Bibles, voulez-vous, avec moi dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 14, dans un texte que vous connaissez bien, qui s'adresse au roi de Babylone. Mais derrière ce passage, on voit très bien celui qui est son maître à penser, le diable lui-même. Ésaïe, chapitre 14, au verset 13, il est dit... Ésaïe chapitre 14, verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au Très-Haut. Convoitise, premier péché dans le ciel. Satan, Lucifer, voulait être comme Dieu. Et vous vous souvenez, dans Ézéchiel, au chapitre 28, au verset 2, il est dit, ton cœur s'est élevé, tu as dit, je suis Dieu. Il voulait être comme Dieu, il voulait avoir son autorité, il voulait avoir ce que Dieu a, mais pas ce que Dieu est. Vous avez remarqué, en fait, le dixième commandement correspond aussi au premier commandement. Le dixième, tu ne convoiteras point. Et le premier nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne convoiteras point, c'est une barrière contre l'idolâtrie. Et le premier commandement nous rappelle qu'il y a un seul Dieu de toute façon, c'est lui que nous sommes invités à recevoir et à adorer. Le dernier commandement, que l'on considère comme le dernier des commandements, est en réalité directement lié au premier commandement, dans notre relation aussi avec Dieu. C'est simplement que ce commandement, c'est le premier qui a commencé la lutte dans le ciel. Mais c'est aussi celui qui sera le dernier au centre de la grande controverse jusqu'à la fin de l'histoire. La convoitise, c'était le premier péché dans le ciel. Malheureusement, la convoitise a aussi été le premier péché sur la terre. Regardez dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, ce texte encore que vous connaissez bien, où l'on retrouve Ève au pied de cet arbre interdit. Genèse, chapitre 3, il nous est dit ce qui s'est passé. Au verset 6, un texte très intéressant qui dit ceci. Genèse, chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Vous avez remarqué, il est écrit qu'elle a vu qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Le mot « précieux » ici pourrait être traduit littéralement, si on prenait le mot qui est dans le texte, par « convoitable ». C'est le mot qui est utilisé. Elle a vu qu'il était convoitable pour ouvrir l'intelligence. Et voilà, la convoitise, le premier péché, non seulement dans le ciel, mais le premier péché sur la terre. Jacques, dans son épître, nous explique comment ça marche. Regardez avec moi dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, comment il explique ce processus-là. Épître de Jacques, chapitre 1er, au verset 13, il est écrit ceci. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ce n'est pas Dieu qui, c'est chacun qui est amorcé par sa propre convoitise. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Ève, qui voulait aussi partager cette invitation que le diable lui a donnée, de prendre et d'être comme Dieu. Satan, en fait, lui a montré qu'elle avait un besoin et que ce besoin devait être satisfait tout de suite et à n'importe quel prix. Maintenant, le diable lui propose, comme lui d'ailleurs l'avait voulu, d'avoir pour être, posséder pour être. D'ailleurs, c'est extrêmement moderne. C'est le principe de la publicité. Si vous achetez ceci ou si vous achetez cela, vous serez un homme, une femme heureuse. Si vous prenez telle assurance, vous n'aurez plus aucun souci, vous serez l'homme le plus heureux du monde, etc., etc. Avoir pour être. En fait, Dieu propose exactement l'inverse. Il nous propose d'être pour être capable d'avoir. Vous vous souvenez ce que Jésus met dans la bouche du maître de cette parabole des talents? Lorsqu'il a affaire aux serviteurs, il leur dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Dieu veut d'abord que nous soyons, et si nous sommes fidèles et droits, alors il nous confiera beaucoup, beaucoup plus que ce que nous pouvons avoir. D'ailleurs, vous connaissez ce texte qui se trouve dans le livre des psaumes. Le psaume 37, au verset 4, dit ceci. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Commence par Dieu. Commence par faire tes délices de cette communion avec lui, pour lui ressembler. Il pourra alors te donner ce que ton cœur désire. Le diable propose d'avoir pour être ou prétendre être. Dieu nous propose d'être à sa ressemblance pour bénéficier de toutes les grâces qu'il nous propose de recevoir. La convoitise était le premier péché dans le ciel. La convoitise a été le premier péché sur la terre. Et la convoitise a été le premier péché dans la terre promise. Vous vous souvenez de l'histoire de Akan dans le livre de Josué au chapitre 7. Dans le livre de Josué au chapitre 7, il nous est raconté que le peuple d'Israël vient de traverser le Jourdain, la frontière de la terre promise. Il rencontre là la ville de Jéricho, une grande ville fortifiée avec des murs, avec des géants, avec tous les moyens de défense nécessaires. Et vous vous souvenez que Dieu va donner des instructions pour vaincre Jéricho. Il suffira de crier au bon moment, de façon à ce que tout le monde comprenne que ce n'est pas un seul des Israélites qui est là, qui a conquis la ville. C'est Dieu qui est intervenu parce qu'ils ont obéi à ce qu'ils avaient reçu de la part de Dieu comme instruction. Et puis, fort de cette victoire, ils continuent et veulent vaincre Haï, une petite bourgade un petit peu plus loin de l'autre côté de la montagne. Et là, faillite, défaite. Ils ne sont même pas partis avec toute l'armée, ce n'était pas nécessaire. C'est une petite bourgade de rien du tout. Et là, ils vont perdre 36 hommes. Ils sont consternés. Ils ont réussi à vaincre Jéricho fortifié et ce petit village de rien du tout, c'est la défaite. Vous vous souvenez que Dieu va finalement montrer qu'il y a parmi eux un homme qui a péché. Dieu avait dit, Jéricho est dévoué par interdit. Il ne pouvait rien prendre, mais lui avait pris. Dans Josué au chapitre 7, au verset 21, Akan explique, et il dit ceci, « J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéar, 200 sicles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 sicles. Je les ai convoités, je les ai pris, ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. » Voilà, il explique simplement ce qui est arrivé. J'ai vu ça, je l'ai convoité, je l'ai pris. C'est intéressant parce que le texte dans lequel Akan raconte ce qui s'est passé est à mettre en parallèle avec ce que nous avons vu tout à l'heure, ce que nous avons lu par rapport à la tentation dans le jardin d'Éden. Gardez un doigt dans Josué chapitre 7. Revenez avec moi dans Genèse chapitre 3 où on était tout à l'heure. Genèse chapitre 3, au verset 6, il nous est expliqué ce qui s'est passé. Genèse chapitre 3, nous allons relire le verset 6 que nous avons lu tout à l'heure. Il est écrit ceci, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. » Et puis un petit peu plus loin, on apprend au verset 8 que l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Revenez maintenant dans Josué chapitre 7 et nous allons relire ce que Akan explique. Josué chapitre 7 verset 21, il dit « J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéar, 200 sicles d'argent, un lingot d'or du poids de 50 sicles. Je les ai convoités, je les ai pris. » Ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente. Vous avez exactement la même chose. Il a vu, il a convoité, il a pris, il a caché. Et vous vous souvenez que le mot précieux dans Genèse 3 est en fait le mot convoitable. C'est exactement la même chose. Le premier péché dans le paradis se trouve reproduit exactement de la même manière dans la terre promise. Le premier péché dans le ciel, le premier péché sur la terre, le premier péché dans la terre promise. Mais c'est aussi le premier péché dans l'Église. Vous vous souvenez de l'histoire d'Ananias et Saphira dans le livre des Actes au chapitre 5. chapitre 5 du livre des Actes nous rapporte que les premiers chrétiens vivaient d'une manière communautaire. Ils vendaient ce qu'ils avaient, ils l'apportaient, ils mettaient leurs biens en commun. Ananias et Saphira ont vendu un champ et ils ont prétendu en apporter le produit complet aux apôtres pour le partage avec tout le monde. Et vous vous souvenez de ce qui s'est passé. Actes chapitre 5, verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendirent une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ?» Et vous savez comment Ananias va être puni là, sur place, par Dieu, directement. Sa femme va venir un moment après et les apôtres vont lui demander « Est-ce là le prix complet du champ ?»« Oui, oui, bien sûr. » Et elle va rejoindre son mari dans la peine du jugement que Dieu va exercer sur eux deux. Directement, immédiatement. Premier péché dans le ciel, premier péché sur la terre, premier péché sur la terre promise, premier péché dans l'Église. Et on est étonné de voir à quel point Dieu intervient de manière si forte pour condamner ce péché-là. Pensez à ce qui est arrivé à Achan, pensez à ce qui est arrivé à Ananias et Saphira. Le 10e commandement, pas si grave de ça, check, tout va bien, pas sûr, pas sûr. La convoitise, finalement, se développe graduellement. Elle devient la volonté de posséder ce qui est au prochain et surtout ce qui est à Dieu. Satan voulait la puissance, il voulait l'autorité de Dieu, il ne voulait juste pas son caractère. Ève a mordu au jeu, si je puis dire. Elle voulait, elle aussi, devenir comme Dieu, avoir ce que Dieu avait. Repensez à Achan. L'histoire nous raconte justement qu'ils étaient à la porte de la terre promise et que Jéricho était la première forteresse sur leur chemin, première forteresse à conquérir. Et Dieu avait dit, elle est dévouée par interdit. Non seulement ils devaient tuer tous ceux qui étaient dans la ville, mais tout ce qu'ils ont récupéré de la ville était consacré à l'Éternel. Regardez dans Josué au chapitre 6, ce qui est écrit par exemple au verset 18. Josué, chapitre 6, verset 18. Il est écrit ceci. « Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. » Et le mot « le trouble » qui est là, c'est le mot « akar », duquel vient le mot « akan ». Le nom de cet homme dont il est question au chapitre suivant. Ne touchez à rien de ce qui est dévoué par interdit. Parce qu'en réalité, nous dit le texte, verset 19, tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Autrement dit, c'est simple. Au moment où ils entrent dans la terre promise, leur première conquête, ce sont les prémices pour Dieu. Consacré à Dieu. N'y touchez pas. Dieu servit d'abord. Et c'est la raison pour laquelle le péché d'Achan a été puni si fort. Il a pris ce qui appartenait à Dieu. On comprend que Dieu ait réagi avec cette force-là. En fait, Achan a volé Dieu. Il a pris la propriété de Dieu. Mais quand j'y réfléchis, je comprends que nous faisons exactement la même chose quand nous retenons la dîme et les offrandes. C'est exactement la même chose. Nous retenons ce qui appartient à Dieu. Dieu demande d'être servi en premier. Est-ce que c'est un caprice de sa part? Non, c'est parce qu'il veut en fait nous apprendre ce qu'est la confiance, ce qu'est la foi, même dans le domaine matériel pour nous stimuler, pour nous inviter à mettre en lui une confiance totale et absolue aussi dans les choses spirituelles qui ne se voient pas. Le diable nous propose, comme on le disait tout à l'heure, d'avoir pour être. C'est la base, c'est le moteur, en fait, du matérialisme. Est-ce que vous trouveriez que j'exagère si je dis que c'est le moteur même de la société de marché dans laquelle nous sommes? C'est exactement l'inverse de ce que le Seigneur propose à ses enfants. Regardez dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, ce que nous dit le sage. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, au verset 9, il est écrit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. » Lorsque nous sommes invités dans ce texte à honorer l'Éternel avec les prémices de nos revenus, nous sommes invités à apporter à Dieu ce qui lui appartient, c'est-à-dire nos dîmes et nos offrandes. Le problème, en réalité, c'est lorsque nous disons avoir la foi et que nous vivons comme si nous ne l'avions pas. Le problème, c'est quand nous disons mettre Dieu à la première place et que dans notre vie concrète, nous faisons l'inverse. Le problème, c'est quand nous prenons pour nous les biens qui appartiennent à Dieu, les dîmes et les offrandes, par exemple. Le problème, c'est quand nous prenons le temps qui appartient à Dieu, le sabbat, par exemple, et que nous ne l'observons pas pour développer ce lien avec lui. Le problème, c'est quand nous gardons pour nous les talents que Dieu nous a donnés et que nous ne les employons pas pour le service auquel il nous a invités. Dans le livre « Patriarches et prophètes » auquel je faisais référence tout à l'heure, se trouve encore ce paragraphe en rapport avec l'histoire d'Achan. Écoutez ceci, à la page 478. Le péché d'Achan avait fait courir un grand péril à toute la nation. Aujourd'hui encore, la faute d'un seul peut attirer sur l'Église le déplaisir de Dieu qui pèsera sur elle jusqu'à ce que le mal ait été découvert et banni de son sein. L'influence la plus à craindre par l'Église n'est pas celle de ceux qui s'opposent à elle ouvertement, des infidèles ou des blasphémateurs, mais plutôt celle de ceux qui prétendent suivre Christ et mènent une vie inconséquente. Ce sont eux qui empêchent Dieu de répandre ses bénédictions sur l'Église de Dieu et la gardent dans un état de faiblesse. Seigneur, je ne voudrais pas être celui-là. Seigneur, je ne voudrais pas être cet Achan qui garde l'Église dans un état de faiblesse. Je ne voudrais pas être celui dont l'influence est plus à craindre que ceux qui s'opposent à l'Église ouvertement. La convoitise, ce n'est pas seulement vouloir posséder ce qui est à Dieu ou être comme Dieu. La convoitise, c'est aussi vouloir ce qui est à son prochain. Le pasteur protestant Antoine Nuis, qui est directeur de la revue Réforme, définit la convoitise comme ceci. Il écrit « La convoitise est une maladie qui considère le frère comme un concurrent, le prochain comme un objet et l'objet comme une idole. » Et c'est juste. Convoitise, idolâtrie. C'est juste parce que finalement, on se rend compte que la convoitise va détruire non seulement notre relation avec Dieu, mais la relation avec les autres. Ellen White, dans Patriarches et prophètes, à la page 477, écrit ceci dans le même chapitre. La convoitise se retrouve partout. Elle crée le mécontentement et la dissension dans les familles. Chez le pauvre, elle fait naître l'envie et la haine contre le riche. Et chez le riche, elle provoque l'oppression avare du pauvre. La convoitise, en fait, détruit. Elle détruit non seulement notre relation avec Dieu, elle détruit non seulement notre amour de Dieu, mais elle détruit tout sur son passage de nos relations humaines. La convoitise détruit les relations familiales à cause d'un héritage qu'il faut partager. La convoitise détruit le couple par le désir que l'on a de quelqu'un d'autre. La convoitise détruit la simplicité de la vie pour le désir de plaisirs beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus coûteux. La convoitise détruit l'amitié entre des amis ou des frères à cause de l'envie d'une position ou d'une renommée. Et finalement, puisque nous approchons de Noël, la convoitise chasse Jésus hors de Noël pour être remplacé par l'obsession des cadeaux. La convoitise, le dernier des péchés? Sûrement pas. Peut-être même le premier. En tout cas le premier dans le ciel, en tout cas le premier sur la terre, en tout cas le premier dans la terre promise, en tout cas le premier dans l'Église. Et maintenant, est-il le premier dans mon cœur? À la fin de sa vie, l'apôtre Jean avait une grande expérience de la vie, une grande expérience de l'Église, et il va donner un avertissement que j'aimerais relire avec vous dans la première lettre qu'il écrit, première épître de Jean au chapitre 2. Première épître de Jean au chapitre 2. Cet homme âgé maintenant a une juste perspective des choses du monde et de l'Église. Et il dit ceci, première épître de Jean chapitre 2 au verset 15. N'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est exactement l'objectif que nous avons, demeurer éternellement. Quelques versets plus loin, Jean rappelle que la promesse que le Seigneur nous fait, c'est la vie éternelle. Mais il nous invite aussi, n'aimez pas le monde et ses convoitises. Le même apôtre Jean, dans l'Évangile, rapporte cette parole de Jésus que vous connaissez bien. Jésus avait dit à ses disciples, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Celui qu'on considère comme le dernier des péchés devrait peut-être être pour certains la première préoccupation pour un temps, jusqu'à ce que la victoire que Jésus a acquise devienne aussi la nôtre sur ce défaut-là. Amen.